Vous êtes sur la pleine lune 93,8 MHz, onde femme chez Radio Zone, cause toujours, tu m'intéresses. Et ce soir, nous retransmettons une émission qui nous a été prêtée par une autre radio. Il s'agit de Radio Libertaire à Paris, où il y a également une émission de femmes, ça s'appelle Femmes Libres. Et elles ont interviewé la sociologue féministe bien connue, André Michel, qui rentrait du Brésil avec plein d'histoires dans ses bagages. André Michel, donc, une émission prêtée par les Femmes Libres de Radio Libertaire de Paris.
Des bois, l'Amazonie. Le désert avance en Afrique. Les forêts européennes. Des périsses atteintes d'une maladie de langueur, tant qu'il y aura mort arbre, le poumon de la terre sera malade. Invulnérable, partout l'homme se meurt, agonise. On croyait le platane indéracinable, il a suffi d'un champignon microscopique. L'arbre est né avant l'homme et mourra bien après lui. Qui aura la patience du chêne? On confère un sommet pour la forêt. On accuse à tort et à travers.
Vous venez d'entendre Colette Magny, c'est son dernier disque ?
Oui, c'est son dernier
Comment
disque.
Comment il s'appelle, son dernier disque ?
Bah, il s'appelle Kevork.
Kevork. Ou le délit d'errance. Et là, c'était le disque sur les forêts d'Amazonie ?
Oui, c'était sur les multinationales qui déboisent.
Oui.
Les multinationales.
Ah oui, pas seulement en Amazonie, elles déboisent. Je crois que c'est un peu partout. Hein,
oui,
partout, ça fait du fric.
Oui, exactement. De toute façon, elles font que des conneries, les multinationales. Alors, voilà.
Oui. Bien, alors tout ça pour vous rappeler que, quand même, Colette Magny vient de sortir un disque que vous pouvez trouver à la librairie du Monde Libertaire. Et vous pourrez le trouver aussi le soir du gala, puisqu'elle vient chanter pour Radio Libertaire le 11 septembre au TLP, avec Gilles Elbaz. Et son nouveau disque sera au TLP. Voilà, André, maintenant, à toi la parole.
Ben, sur quel sujet ?
Ah ben, le premier, déjà, que tu as sous les yeux, là, non, au stéréotype, puisque c'est la rentrée scolaire,
oui,
il est bon
de
parler des livres.
D'un livre. Alors, voilà. Ce livre s'intitule « Non au stéréotype, vaincre le sexisme dans les livres pour enfants et les manuels scolaires ». Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un ouvrage qui a été demandé par l'UNESCO, pas l'ONU, mais enfin l'UNESCO est une organisation qui dépend de l'ONU. C'est une demande des ministres de l'Éducation nationale des pays membres de l'UNESCO, c'est-à-dire plusieurs centaines de pays envoient une fois par an leur ministre de l'Éducation nationale à Paris. Au siège de l'UNESCO, il y a une assemblée, et là, on prend des décisions sur le programme de recherche et le programme de publication de l'UNESCO. Et comment se trouvaient dans la décennie de la femme, les ministres de l'Éducation nationale de ces différents pays ont demandé que quelque chose soit fait pour les femmes. Et qu'on commence, puisque l'UNESCO est une organisation qui s'occupe de l'éducation, qu'on commence par faire un ouvrage sur l'identification des stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires et dans les livres pour enfants.
Mais oui, alors, c'est à la base qu'il faut...
Voilà. Alors, on m'a convoqué en 1984-85 et pour me dire, voilà, il y a un travail à faire. Il faut faire un guide d'identification de ces stéréotypes et puis donner des prescriptions pour savoir comment écrire des manuels scolaires ou des livres pour enfants non sexistes. Mais l'UNESCO, le département pour l'égalité dans l'éducation des femmes et des jeunes filles, avait préparé cet ouvrage en faisant faire des recherches dans plusieurs parties du monde, dans plusieurs pays dans le monde, sur ce sujet-là. Alors, il y a eu la Chine, il y a eu l'Ukraine, le Koweït, le Pérou, la France, le Canada, et puis les États-Unis et la Norvège. Donc, j'ai eu à la disposition toutes ces recherches menées dans différents pays du monde, et j'ai pu constater que les auteurs de ces recherches, quel que soit leur sexe, quels que soient les pays, le mode de développement socialiste ou capitaliste, eh bien, aboutissaient tous à la même conclusion, à savoir que le sexisme était toujours présent dans les livres scolaires et dans les manuels scolaires et dans les livres pour enfants. Naturellement, quand c'était des Chinois ou des Soviétiques qui parlaient de ces problèmes, dans leurs rapports, on mettait beaucoup de nuances et de subtilités, mais on comprenait que malgré des images favorables présentées des femmes et des jeunes filles, eh bien, elles étaient toujours représentées moins souvent que les hommes dans des métiers intéressants ou dans des responsabilités qui leur donnaient du prestige et de l'autorité. Alors donc, voilà ce livre. Je rends mon manuscrit à l'UNESCO et l'UNESCO le publie en plusieurs langues, en anglais, en français, en russe. J'ai entendu dire qu'on devait faire une version arabe et une version chinoise, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais d'autres pays l'ont traduit avec l'accord de l'UNESCO, bien entendu, par exemple l'Espagne. Mm-hmm. Ce livre a été traduit en espagnol et il a été traduit cette année par le Brésil en portugais, et ce qui a donné lieu à une invitation de la part des femmes brésiliennes.
Le pourquoi de la deuxième partie de l'émission, d'ailleurs.
Voilà. Hein? Voilà.
Donc, c'est le livre qui est à l'origine. C'est ton livre qui est
voilà,
à l'origine.
Voilà, donc ce livre a un cheminement.
Mais alors, moi, je trouve que c'est quelque chose de drôlement tordu, ça. Que le gouvernement socialiste demande un travail à ce sujet, alors qu'en même temps, il y a des accords armée-éducation. Parce que s'il y a un lieu qui est, on ne peut plus sexisme, c'est bien le militaire.
Oui, mais alors attends, là je suis en train de parler de l'UNESCO.
Oui.
L'UNESCO.
Non, mais tu parlais des ministres de l'Éducation nationale.
Oui. Ah d'accord, oui, mais oui. Enfin, la France ne représente qu'un pays sur je ne sais pas combien,
oui,
il y en
vrai.
A peut-être 110 ou 120 qui sont membres de l'UNESCO. Mmh. Je dirais que heureusement que la France ne représente qu'un parmi ces pays. Et d'autre part, quand il y a une assemblée internationale, on n'ose souvent pas s'élever contre... Il y avait un consensus pour que l'UNESCO fasse quelque chose à la suite de cette décennie de la femme. Mais la directrice de ce département de l'UNESCO pour l'égalité des chances des jeunes filles et des femmes dans l'éducation, c'était une Palestinienne, ce n'était pas une Française. C'est possible que si le gouvernement français avait désigné un agent ou une agente à la tête de ce service, premièrement, sans doute, on n'aurait pas fait appel à moi. Et deuxièmement, on n'aurait peut-être pas donné cette orientation.
Non, parce que quand même, il faut rappeler que tu es l'auteur de Nouvelles questions féministes concernant la militarisation et les conséquences, fracassant quand même, hein, contre justement les centres militaro-industriels, etc.
Eh bien oui, mais vous voyez, c'est toujours la même chose. On voit dans quelle société je vois dans quelle société je vis, parce que ces problèmes-là sont des problèmes tabous dans la société française dans laquelle je vis. Et par contre, ce n'est pas tabou dans les autres pays. Bon, sans que je demande quoi que ce soit, cet article a été traduit en 3 langues pour le moment, en italien, en espagnol et en portugais. Alors, c'est quand même intéressant.
Pas en anglais ?
En anglais, ils ont tellement de choses, ça fait double emploi. En anglais, on trouve, il y a une richesse extraordinaire de publications dans tous les domaines, y compris dans ce domaine-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que justement, c'est le cheminement de cet article sur la militarisation des sociétés contemporaines, et en particulier de la France, et les relations avec le statut des femmes, la condition des femmes dans le monde et non seulement en France, et bien cet article a fait écho, je dirais, dans le monde, puisqu'on l'a traduit, en Espagne, on l'a traduit en Italie, on l'a traduit au Brésil et au Nicaragua. Mm-hmm. Même les Nicaraguaines, ne sachant pas que l'article avait été traduit en espagnol par les femmes espagnoles, l'ont traduit de leur propre chef.
Oui, parce que tu montres...
Simultanément. Alors, il y a un cheminement des idées. Donc, ça veut dire qu'à travers le monde, tout au moins dans ces pays, les femmes voient le lien entre leurs conditions, le sexisme, les discriminations, leur misère, leur pauvreté, surtout leur pauvreté et leur misère et leur chômage et ces dépenses faramineuses qui sont consacrées aux militaires. Voilà ce que ça montre.
Voilà. Et le peu de dépenses qui sont consacrées à l'éducation.
Bien sûr, et tandis que ici, en France, dans un pays où le niveau d'éducation général est plus élevé, si je compte le nombre d'années passées à l'école, et la population qui est scolarisée dans le secondaire et puis à l'université, c'est évidemment plus élevé qu'au Portugal, qu'au Brésil, qu'au Nicaragua ou bien qu'en Espagne. Eh bien, c'est un sujet, premièrement, c'est un sujet tabou, et deuxièmement, l'opinion n'a pas fait le lien entre la misère, la pauvreté, le chômage des femmes et cet immense détournement d'argent et d'énergie au profit du militaire. Oui. Ça m'a beaucoup frappée. Par exemple, j'ai été invitée par une amie infirmière et j'ai défilé avec les infirmières lors d'une très grande manifestation où elles étaient 100 000. On est allé de la Bastille au ministère de la Santé. Eh bien, je n'ai pas vu d'affiche liant les bas salaires des femmes dans la santé, la misère des hôpitaux, etc., au détournement d'argent représenté par le militaire. J'ai eu des conversations avec des infirmières, on m'a répondu il ne faut pas mélanger les problèmes, comme s'il n'y avait pas un budget national où ce qui est prélevé pour les uns ne va pas aux autres. Autrement dit, les femmes du tiers-monde, les femmes des pays méditerranéens, que j'ai citées tout à l'heure, ont compris ces choses-là, qu'il y a un budget, que dans ce budget, il y a des priorités et que les hommes décident de priorités pour le militaire et pas pour les femmes, puisque les femmes travaillent dans la santé, dans l'éducation, etc. Et puis dans notre pays, où on est plus riche, plus intelligent peut-être, je mets ça entre guillemets, où on a été plus longtemps à l'école, et ben ça ne rend pas les gens plus intelligents puisqu'ils ne font pas encore le lien. alors que dans les pays beaucoup plus pauvres, on fait ce lien.
Alors, on va revenir peut-être à ton ouvrage.
Oui.
Hein, sur les stéréotypes sexistes dans la société, les livres pour enfants. Alors, tu as commencé par donner quand même une définition.
Alors, des stéréotypes
que... oui, oui.
Bon, ben, des stéréotypes, oui, évidemment. Qu'est-ce que c'est que des stéréotypes? C'est un mot, ça se rapproche évidemment de la définition des préjugés. Ce sont des modèles rigides et anonymes sur la base desquels sont reproduits de façon automatique des images ou des comportements. Bon, c'est les préjugés, ce sont des croyances, des opinions préconçues imposées par le milieu, l'époque, l'éducation, et qui sont très proches des stéréotypes.
Oui.
Bon, dans les livres scolaires, les stéréotypes se manifestent soit par des images, soit par des jugements qui attribuent aux femmes et aux hommes des qualités différentes, qui leur attribuent des activités différentes, des professions différentes, etc. C'est
oui,
ça,
alors,
les stéréotypes.
Absolument.
Et ces différences sont en fonction du sexe et non pas de la réalité, de la composition socio-professionnelle par sexe, ou bien des aspirations de chacun. C'est vraiment en fonction de mécanismes rigides, d'idées rigides que les gens ont dans la tête.
Qui sont trimballés par le patriarcat.
Ben,
et qui reproduisent le
bien
schéma
sûr,
patriarcat.
Bien sûr, ces stéréotypes ont pour but de légitimer le système patriarcal et de le reproduire, c'est-à-dire de reproduire la situation de subordination des femmes dans la société, leur oppression et leur domination par les hommes.
Et c'est lourd de conséquences, puisque ça s'adresse à des jeunes enfants.
Évidemment, qui sont réceptifs, qui sont vulnérables, et l'enfant a tendance à accorder plus d'importance à l'image, au livre écrit, à ce qu'il voit soit à la télévision, soit dans les livres, que à la réalité quotidienne. Et là, je peux donner plusieurs exemples. Par exemple, une petite fille, ça a été rapporté par une mère, une petite fille qui dit « Je ne peux pas devenir docteur, je ne peux devenir qu'infirmière, c'est mon livre qui le dit. »
Ah oui. Ça donne un exemple.
Voilà, ça donne un exemple
de
vraiment.
Bon, dramatique.
Là, j'ai encore un exemple pour montrer quel est l'impact de l'image et de la télévision en particulier. Mais évidemment que l'UNESCO étant un organisme d'éducation et il y avait la rencontre de ces ministres de l'Éducation nationale, on a pensé motiver l'école à changer ses stéréotypes. Mais il faudra faire évidemment la même action du côté de la télévision. Ça n'est pas pour demain, malheureusement. Bon, mais pour parler de la télévision, de l'impact de l'image, qu'elle soit dans un livre scolaire, dans un livre pour enfants ou bien à la télévision, les enfants accordent plus de vérité à ces images qu'à la réalité. Bon, alors j'en donne comme exemple une conversation qui s'est tenue entre une de mes amies qui est institutrice et qui parlait de l'amour à ses élèves, à la demande de ses élèves, bien entendu. Alors, elle expliquait que quand quelqu'un est mort, le corps physique, tout au moins, est inerte. Et les enfants ont répondu, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, nous avons vu un film à la télévision, on passe le courant électrique et la personne revit. Voilà, mais voilà, l'image est plus forte, le stéréotype, l'image est plus forte que le réel. Tout au moins chez les enfants. Alors, on nie l'impact de l'image. Et moi, je me rappelle avoir été, à un moment, j'étais aux États-Unis et j'ai lu dans un grand hebdomadaire qu'il y avait eu une protestation des psychologues parce que le gouvernement américain leur avait demandé de faire une recherche sur l'importance de l'image et en particulier des images de violence sur les enfants et qu'ils avaient trouvé que ces images de violence avaient un impact. Mais les médias, les journaux avaient donné une image, avaient donné un compte-rendu erroné de cette recherche.
Avaient falsifié
les résultats. Donc les psychologues qui avaient fait cette recherche protestaient. Alors voilà où nous en sommes. On est dans un monde où ces images, ces enfants sont vulnérables, sont bombardés par toutes sortes d'images, et en particulier non seulement des images de violence, mais des images sexistes. Qu'est-ce que c'est ? C'est une violence qui est faite aux hommes comme aux femmes, c'est-à-dire il faut jouer des rôles, il faut porter un masque, parce que c'est ça, un stéréotype, c'est un comportement stéréotypé qu'on exige de l'individu, il doit se conformer. Donc c'est une violence qui est faite à l'individu, à la petite fille et aux femmes, de suivre ses pratiques, ses attitudes, ses comportements, et de ne pas empiéter sur le domaine qui est réservé aux hommes. Et de même, les hommes aussi font un peu l'objet de ces violences, dans la mesure où on les oblige à suivre ces modèles de personnages compétitifs, belliqueux, agressifs, sinon ils ne sont pas reconnus comme des hommes, comme des êtres virils. Alors on en est toujours là, dans les livres scolaires et dans les livres pour enfants.
Et alors, dans ces manuels scolaires, on donne tout le temps l'exemple de la famille, puisque c'est le lieu où se reproduit le plus fort.
Bien sûr, donc dans ces livres scolaires, eh ben, on voit toujours, dans ces livres pour enfants, on voit très souvent une femme, une mère plutôt. D'abord, la femme n'est jamais qu'une mère. La femme seule, célibataire, n'existe pas, n'a pas le droit d'exister en dehors de ses rôles de mère ou d'épouse. Alors, on la voit très souvent...
On voit la grand-mère hein, aussi.
Oui, hein? Quelquefois. Mais enfin, on la voit très souvent avec un tablier noué autour des hanches et puis en train de faire des crêpes pour les enfants. Et le père et les enfants sont assis autour d'une table. Ou bien on la voit en train de s'occuper des enfants, de faire la toilette des enfants, pendant que le père lit et regarde la télévision. Donc là, on se demande qu'est-ce qu'on apprend aux enfants. Est-ce qu'on leur apprend la grammaire, les mathématiques, ou est-ce qu'on leur apprend les rôles qui sont assignés aux hommes comme aux femmes, aux petites filles comme aux garçons?
Tout à fait, oui. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a le même type de stéréotype en fonction des différents pays? Oui, tu avais dit tout à l'heure que c'était approximativement...
C'est plus ou moins bien marqué, mais ça va toujours dans cette... tendance, c'est-à-dire que, par exemple, il y a quand même des nuances. C'est que dans les pays socialistes, on compte, d'après les enquêtes qui ont été faites par les Chinois et par les Soviétiques, il y a presque autant d'hommes que de femmes qui exercent une profession. Alors que dans les pays occidentaux, prenons par exemple le Canada, il y a 10% de femmes dans les manuels scolaires qui exercent une profession, alors que tous les hommes exercent une profession, alors qu'en réalité, même en réalité au Canada, il y a plus du tiers des femmes qui exercent une profession. Donc déjà, bon, alors la différence, c'est que dans les pays socialistes, il y a un pourcentage plus élevé de femmes qui, dans les livres pour enfants ou dans les manuels scolaires, exercent une profession. Mais ce sont toujours des professions qui ne sont pas les professions des hommes, sont toujours des professions...
Dévalorisées.
Souvent dévalorisées. Pas toujours, mais souvent dévalorisées. Donc ça apparaît, ils le disent, franchement.
Bah, de toute façon, c'est à cette seule condition que les femmes ont accès en grand nombre au monde du travail. Hein. Disons d'accepter les emplois subalternes, d'une part, et d'autre part, quand une profession se féminise, elle se dévalorise.
Oui, ça, c'est une logique qui est bien connue. Et ce qui est absolument regrettable, c'est que l'école véhicule ces images dans les livres scolaires donnés aux enfants. Bon, alors, il y a évidemment les images, il n'y a pas que les images, mais il y a les textes. Les textes, bien entendu, les histoires racontées, les exemples de grammaire ou l'apprentissage des mathématiques. Bon, tout à l'heure, moi, je fais allusion, par exemple, à un livre de mathématiques que j'ai consulté. Alors, pour apprendre la multiplication, On demande combien la mère doit faire de crêpes pour une famille composée de tant d'enfants. Et effectivement, on voit cette table avec le père et les enfants assis autour de la table, tandis que la mère est debout et confectionne les crêpes.
C'est pour ça qu'il y a si peu de femmes dans les mathématiques, elles sont toutes aux crêpes.
Bon, alors là, il y a autre chose, parce que le sexisme, il est à l'école, il est dans l'institution, il est dans toute la société. Mais il n'est pas que dans les manuels scolaires, il est aussi dans l'institution scolaire. Par exemple, il est dans la hiérarchie, les professions et les responsabilités occupées respectivement par les hommes et par les femmes au sein de l'institution scolaire. On trouve évidemment beaucoup de femmes institutrices d'école maternelle ou institutrices d'école primaire. On en trouve moins dans le secondaire. Et on n'en trouve presque plus dans l'enseignement supérieur. Bon, deuxièmement, on trouve dans l'enseignement secondaire beaucoup de femmes qui sont professeurs de lettres, de grammaire, de langue, etc. On en trouve assez peu de mathématiques ou de sciences. Par conséquent, déjà, les enfants, garçons ou filles, développent ce stéréotype, c'est-à-dire les sciences, les mathématiques, c'est pas pour les... c'est pas pour les filles, c'est pour les garçons.
Alors,
et donc, ça va se répertorier au niveau de l'orientation professionnelle, au niveau des études supérieures, universitaires, du choix des professions par garçons et filles, et ainsi se répète toujours le ghetto féminin d'emploi.
Donc, on peut dire que les images des livres et les textes des livres, en fait, entretiennent la réalité. Puisque dans la réalité, on voit encore les femmes faire des crêpes et les hommes les pieds
les
sur
manger.
La table.
D'accord. Non, mais je vous ai donné l'exemple canadien quand même. Bon, dans la réalité, les choses sont moins stéréotypées que ça. Je vous ai parlé de 33% de femmes qui travaillent au Canada. Alors, pourquoi uniquement 10% dans les livres et dans les livres scolaires? Il y a des hommes qui font des crêpes aussi bien que des femmes ou qui préparent de bons plats. Donc il y a des femmes médecins, à ma connaissance. Il y a des femmes avocates, magistrates. Mais on ne les voit jamais dans ces livres scolaires, sauf exception.
Ça, c'est vrai. Alors,
donc, ça ne correspond même pas à la réalité. Et d'autre part, quel est le but de l'école? Est-ce que l'école s'est renforcée les stéréotypes ou au contraire changer et faire une société plus équitable entre hommes et femmes?
On peut se poser la question. Ouais.
Ben, d'accord, quand on voit... alors là, il faudrait savoir pourquoi. Donc j'ai essayé aussi d'explorer pourquoi. Le pourquoi, c'est que tout le monde est imprégné de sexisme, aussi bien les éditeurs que le corps enseignant, que les... Si les éditeurs changent les livres scolaires, ils ont peur de faire du...
De ne pas gagner assez de sous.
Oui, de ne pas contenter les parents, d'être rejeté par les professeurs. Quand on interroge les instituteurs, les professeurs, ils ont peur de manifester des désirs pour un changement, tout au moins quand ils ont le désir que ça change. Et ils disent les parents ne veulent pas que les enfants, par exemple, que les petits garçons fassent de la broderie ou que les petites filles fassent du travail du bois ou de la menuiserie ou du travail du métal. Enfin, voilà, donc tout le monde se renvoie la balle et moyennant quoi, le statu quo, mais il y a quand même des changements, il y a quand même des éditeurs qui ont fait des efforts. La lutte féministe, il ne faut pas nier les résultats de la lutte féministe. Seulement, c'est toujours un travail à refaire de longue haleine. Il y a quand même, il y a à peu près 5 ou 6 ans, peut-être plus, de grands éditeurs de livres d'enfants qui ont envoyé des prescriptions aux auteurs de livres scolaires et de livres d'enfants pour leur dire « Veuillez écrire des livres qui ne soient pas sexistes ». L'initiative est venue, bien entendu, ça commence toujours aux États-Unis parce que les Américaines sont peut-être plus combatives, etc. Donc, Macmillan, qui est un grand éditeur américain de livres scolaires, a envoyé des prescriptions à ceux qui écrivent et à celles, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent des livres scolaires, en leur demandant de changer, de rompre avec ce sexisme. Il y a d'ailleurs, à la fin de ce livre, il y a quand même les prescriptions, des prescriptions qui...
Recommandations aux auteurs de manuels et aux illustrateurs.
Alors... formulées par Fernand Nathan. Oui, donc ici, nous avons eu... Je me rappelle qu'en 1970, ça a été déjà un thème de la lutte des féministes. Et ce sont les féministes qui ont attiré cette attention. Par la suite, il y a eu l'Institut national de recherche pédagogique, qui est un organisme officiel, qui a fait faire une recherche sur le sexisme dans les manuels scolaires et les livres pour enfants. Bon, ensuite, il y a eu une association qui s'appelle Pour une école non sexiste, fondée par Catherine Valabreg, qui a été extrêmement active et qui continue à être active, qui a fait toutes sortes, qui a fait des expositions, des valises expositions, des cassettes, femmes de ménage et hommes d'affaires. C'était pour montrer les rôles masculins et féminins stéréotypés. Bon, et ça a eu un impact puisque Nathan a distribué des recommandations aux auteurs de manuels et aux illustrateurs pour que ces livres scolaires et ces illustrations ne soient pas sexistes. Alors donc, y a quand même, faut pas noircir les choses, mais enfin...
Oh, enfin, ça avance vraiment très très lentement.
Mais oui, ça avance très 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 lentement parce que... par exemple, en France, on m'avait expliqué que le poste d'achat dans les budgets des municipalités pour les livres scolaires, c'est la même ligne budgétaire que le chauffage. Alors, quand il y a eu l'augmentation du prix du pétrole, du prix du mazout, pour le chauffage des écoles, évidemment, on ne pouvait pas renouveler les livres scolaires. On n'avait pas beaucoup d'argent pour en acheter. Bon, les livres, écrire un livre nouveau, ça coûte cher. Ça coûte plus cher que de rééditer un vieux livre sexiste. Il faut payer de nouveau un auteur ou une autrice de livres scolaires.
Ceci dit...
Bon, ensuite, il faut demander aux municipalités d'acheter les livres scolaires, puisque ces livres sont gratuits jusqu'à la troisième, je crois. Les livres scolaires sont gratuits. Seulement, ça se retourne aussi, la gratuité, d'un certain côté. Parce que, comme on n'a pas beaucoup d'argent, eh ben, on reprend les mêmes manuels scolaires.
Bien, sur ce, une petite pause musicale. Catherine, tu as choisi ?
On continue avec...
L'écolier soldat ? Non,
non, on continue avec Colette Mani.
Ben oui, mais c'était de Colette Mani aussi. Ah, ça fait rien.
Pardon.
Ça fait rien. Ton choix sera le bon. Vous écoutez Femmes Libres sur Radio Libertaire, 42 62 90 51.
Rift Valley, Rift Valley, Rift Valley. C'est la grande faille d'Afrique, un des traits de la croûte terrestre, visible de la lune, au plus profond de la terre. Seules les forces naturelles les plus puissantes pouvaient donner naissance, un fossé aux dimensions colossales, du Liban au Mozambique, du Liban au Mozambique. Rift Valley, Rift Valley, Rift Valley. Paysage de fin du monde, le brûlant désert éthiopien, le désert d'Anakil, l'enfer, l'enfer. La persécution a rendu le crocodile méfiant. Mmh.
défenses. Les éléphants arrachent écorces et branches pour atteindre le succulent feuillage. Rift Valley, Rift Valley, Rift Valley. Le lion, pris dans les phares d'une voiture, se retire bien vite, sachant par d'amères expériences que les armes de l'homme sont les plus graves dangers qui menacent les habitants sauvages de la grande faille d'Afrique. Apporté par les vents, la nuit brun verdâtre, des criquets pèlerins, SOS criquets, SOS criquets. Faune et flore en détresse, seuls les insectes survivront. C'est la grande faille d'Afrique. Au Mozambique, du Liban au Mozambique. Rift Valley, Rift Valley, Rift Valley, Rift Valley, Rift Valley, Rift
Ah, vous venez d'entendre un des morceaux du nouveau disque de Colette, c'était Rift Valley. Bien, on continue donc sur le sexisme dans les livres scolaires et les conséquences que ça peut avoir sur les petites filles, cette dévalorisation finalement des filles.
Eh bien, il y a l'exemple des États-Unis. Il y a l'exemple des États-Unis que je veux citer parce que ça fait l'objet de recherches approfondies et qui sont très connues dans le monde entier. Bon, eh bien, on a constaté que les enseignants et les enseignantes ne traitent pas garçons et filles de la même façon. Non seulement il y a ces images dévalorisantes des femmes, non seulement il y a des textes sexistes qui montrent des comportements masculins et féminins, les hommes étant crédités, et les petits garçons, d'ailleurs, étant crédités du courage, de l'audace, de la créativité, de l'invention, tandis que les femmes sont passives, soumises, résignées, etc. Mais aussi les attitudes des enseignants et des enseignantes à l'égard des garçons et des filles ne sont pas les mêmes. Ainsi, on a constaté que on blâme plus souvent les filles que les garçons. Même si elles sont aussi disciplinées que les garçons. Elles sont plus souvent réprimandées et on dialogue, les enseignants et enseignantes dialoguent beaucoup plus souvent avec les garçons qu'avec les filles. Tout ça, ça procède de quel stéréotype ? C'est que l'éducation est plus importante pour les garçons que pour les filles. Et en même temps, les filles, c'est le second sexe, le sexe dévalorisé. Alors, ce qui se produit chez les filles, c'est justement ces attitudes, ces stéréotypes, ces images dévalorisantes.
Les inhibent.
Eh bien, les inhibent et font que elle développe ce qu'on appelle la crainte du succès. C'est ce qui a été étudié aux États-Unis. où on a observé qu'il y avait deux fois plus de fillettes que de garçons qui avaient la crainte de réussir. Et cette peur de réussir chez les jeunes filles, chez les petites filles, était liée au sentiment de ne pas être féminine, de risquer de ne pas être acceptée socialement. Le succès pouvant être considéré comme une rupture par rapport aux stéréotypes sexistes traditionnels associés au sexe féminin, qui fait que les femmes ont des rapports aux hommes de subordination et ne doivent pas rivaliser avec eux, être compétitives, être au moins de même niveau équivalent.
Alors celles qui y arrivent, elles souvent, enfin, je ne sais pas si ça continue, mais moi, quand j'étais au lycée ou après, eh bien, celles qui réussissaient dans les carrières scientifiques, souvent, elles avaient perdu toute féminité. Tu vois, elles ne se maquillaient pas. Elles avaient pris des attitudes masculines.
Eh bien, oui, mais ça, c'est quand on dit qu'elles avaient pris des attitudes masculines, c'est en fonction des stéréotypes que nous avons dans la tête. Alors, ce qu'il y a, là, il y a une autre recherche américaine qui est très, très claire, qui montre le lien entre l'éducation à l'autonomie des enfants et la réussite dans le domaine mathématique et dans le domaine scientifique. Parce que les petites filles qui ne sont pas trop brimées réussissent à l'école, dans les premières années de l'école primaire, elles réussissent aussi bien que les garçons, si ce n'est mieux en mathématiques et en sciences. Et puis dans le secondaire,
ça se gâte.
Ça se gâte et les filles accusent un certain retard. Alors on dit, le stéréotype, c'est les mathématiques, les garçons sont doués pour les mathématiques et les filles ne sont pas douées. Or, ce qui apparaît, c'est l'autonomie de l'enfant, l'autonomie de l'adolescent. Les parents laissent beaucoup plus de liberté, tolèrent beaucoup plus l'émancipation, l'autonomie des garçons que des filles. C'est-à-dire que les garçons peuvent sortir plus facilement, peuvent choisir leurs loisirs, leurs compagnons, leur tolèrent une marge de liberté qu'on tolère moins souvent aux filles. D'où ces blocages qui se portent dans le domaine de la réussite dans les mathématiques et dans les sciences. Le facteur autonomie de l'enfant est un des plus déterminants dans la réussite des filles pour les sciences et les mathématiques.
Et il y a aussi le rôle tout à fait pervers de l'éducation nationale, à savoir par le biais des centres d'information et d'orientation, parce que les orientatrices, souvent, font perdurer ces schémas. Hein.
Voilà.
Et automatiquement, une fille, on va la diriger.
Non, mais je suis absolument d'accord.
Et ça continue encore actuellement, alors que, soi-disant, c'est ouvert à tout le monde.
Il y a la Fédération internationale de l'enseignement, et puis même la Fédération de l'éducation nationale en France, qui a remarqué que dans les centres d'orientation professionnelle, on classe comme inadaptée une fille qui ne choisit pas spontanément les métiers dits féminins.
Voilà.
De couture, de coiffure, de maniture,
de secrétariat.
Pas
tout le tertiaire.
Tout le tertiaire, attention, le tertiaire subordonné.
Pas l'ingénieur
électronicien ou bien des responsabilités élevées dans un bureau ou dans une administration. C'est jugé inadéquat. La fille est jugée mal adaptée si elle ne se conforme pas à ces stéréotypes. Et ça, c'est quelque chose de décisif pour l'orientation des filles.
Alors qu'on sait très bien qu'actuellement, les mathématiques et la physique, c'est la voie royale pour une pseudo-réussite scolaire, pour une carrière, carrière quelque part.
Toute cette orientation sexiste, ces images sexistes, visent à bloquer le potentiel des filles, au lieu de développer leur potentiel en fonction de leurs goûts et de leurs aptitudes, et non pas en fonction de ces stéréotypes, de ce que la société a assigné comme rôle respectif aux hommes et aux femmes, eh bien, avec cette orientation sexiste, les filles ne peuvent pas développer tout leur potentiel. Je dirais que même les hommes qui ont envie de s'occuper d'enfants, d'avoir d'avoir des fonctions d'instituteur d'école maternelle, eh ben, ne le font pas parce que c'est quelque chose qui leur est interdit. Mais enfin, je veux dire qu'il y a quand même des changements. Parce que j'observe qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se trouvent bien comme instituteurs d'école maternelle.
C'est vrai.
Et moniteurs dans les colonies de vacances. Donc il y a quelque chose de changé.
C'est important.
Mais malheureusement, je crois qu'il y a eu aussi une décision qui date de Françoise Giroud. On a estimé que pour l'équilibre de l'enfant, il fallait qu'il y ait un certain nombre de personnages masculins. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un certain pourcentage d'hommes, y compris dans les écoles maternelles et à l'école primaire. Donc on a instauré ce quota, et malheureusement, on n'a instauré aucun quota pour les femmes dans les universités. Voilà.
Alors, oui, Elba, tout ce travail que tu fais là, est-ce que tu penses, au niveau des livres scolaires, le sexisme, est-ce que ça suffit?
Ben, non, évidemment que ça ne suffit pas, parce que les enquêtes montrent que l'enfant passe autant de temps devant la télévision, sinon davantage qu'à l'école. Et par conséquent, si même si on change quelque chose dans les livres scolaires, etc., l'enfant est rattrapé à la télévision par ce même genre d'images sexistes et d'histoires sexistes et de rôles stéréotypés, eh bien, ça changera très lentement ou ça changera pas du tout.
Mais est-ce qu'on peut espérer que l'UNESCO commandera le même type de travail concernant la télévision?
Ça a déjà été fait, mais les mesures n'ont pas suivi.
Ah.
Les mesures, eh bien, parce que on peut déjà plus facilement agir, peut-être, tout au moins dans les pays à économie planifiée, on peut agir au niveau des ministères de l'Éducation nationale. Et dans nos pays aussi, peut-être, mais les chaînes de télévision